19h, 20h avec Maurice Sefti.
Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener 5 siècles en arrière dans un monde assez restreint en définitive, parce que le Portugal, l'Espagne, l'Europe, eh bien c'est peu de choses parce que on ne connaît pas encore l'Afrique. On devine vaguement l'Asie. Marco Polo s'est déjà un peu baladé. Venise a eu des aventures incroyables. Mais l'Europe centrale, cette Europe de l'Ouest, ne sait pratiquement rien du monde. Elle attend son heure. Et le Portugal doit attendre cette heure pour des raisons extrêmement précises. Parce que au moment où le monde des caravanes s'interrompt, c'est-à-dire cette lignée des caravanes qui avait l'habitude de partir depuis la Chine et qui traversait petit à petit l'Arabie et qui arrivait du côté du sultanat d'Égypte, va se trouver coincée par le sultan d'Égypte qui refuse les livraisons à toute l'Europe. Des livraisons qui sont bien particulières, des livraisons qui correspondent à tout ce qu'on peut rêver comme produit de luxe, c'est-à-dire les épices en particulier. Stephen Zweig disait par exemple, au début étaient les épices. Eh bien, c'est tout le XVIe siècle. C'est toute cette idée de la fin du XVe siècle qui va permettre l'ouverture du XVIe siècle. Un peu comme notre XXe siècle annonce le XXIe siècle. Comme si tout à coup le millénaire qui nous attend était aussi impressionnant que les 500 ans qui attendaient les humains, enfin sous le sens de la Renaissance, puisque d'un seul coup, en moins de 30 ans, vous allez le voir, on va découvrir non seulement l'Afrique des côtes, les comptoirs, l'Inde, Goa, mais on va également découvrir l'Amérique grâce à Christophe Colomb. Mais aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à Magellan qui est peut-être l'homme le plus incroyable qui suit cette première grande découverte, car moins de 30 ans après que l'on ait mis le pied sur la première île, sur le premier îlot des Caraïbes, premier îlot des Amériques, eh bien lui va se lancer dans le premier tour du monde. Alors pour reprendre les conditions où furent effectuées les premières découvertes, je crois qu'on est obligé de parler des épices, c'est vrai, mais il faut aussi penser à la carte politique et surtout religieuse du monde. L'islam est toujours très très présent, déjà depuis le 7e siècle, on le sait, puisque cette partie de l'Europe, l'Espagne, le Portugal et pratiquement jusqu'à Poitiers, tout va être touché par l'islam. En 711, on passe le détroit de Gibraltar. Eh bien, en cette fin du 15e siècle, l'islam est encore plus présent que jamais car il est en train d'empêcher toutes les croisades ont échoué vers Jérusalem et il faudrait pouvoir débloquer cette hégémonie de l'islam, chercher, je le disais aussi tout à l'heure, un nouveau transit pour ces matières précieuses. On n'a aucune idée de ce que représentaient les épices à l'époque. Parce que si j'énumère les produits précieux qui viennent d'Orient, vous allez voir que ça devient impressionnant. Il y a le poivre, bien sûr, on y pense tout de suite, mais il y a la cannelle, il y a le musc, il y a l'ambre. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre? Le massis, par exemple, le gingembre. Il y a toutes les essences de rose. Il y a l'opium qui sert déjà en médecine. Il y a le camphre, la gomme, le girofle, j'en oublie sûrement, la muscade. Il y a le thé déjà, et puis tous les toniques, les encens, après tout, l'encens pour toutes les églises de la chrétienté, tout cela vient d'Orient. Donc, obtenir toutes ces richesses, c'est aussi le but des croisades, c'est-à-dire reprendre Jérusalem. Mais comme on a échoué plusieurs fois, eh bien, il faut trouver un nouveau mode, il faut trouver des voies maritimes totalement nouvelles, des voies qui seraient franches, qui ne seraient pas coincées justement par ce sultanat d'Égypte. Et cette idée, elle vient en tête à quelqu'un qui s'appelle Henri. Henri qu'on va surnommer le navigateur. Et avec bien des raisons, parce que ce roi du Portugal, il va chercher cette nouvelle voie, il va la trouver, il va créer une impulsion incroyable par la découverte de nouvelles voies latines. C'est-à-dire que pour la première fois, on n'utilise plus des mais on va utiliser des bateaux beaucoup plus légers et il va chercher à obtenir des voies vers le sud, vers ce pays des épices. Alors, replaçons un peu les choses dans le temps. Il y a effectivement tout juste 500 ans, en 1486, pour la première fois, on a réussi à passer le Cap des Tempêtes. Le Cap des Tempêtes, c'est celui que vous appelez le Cap de Bonne-Espérance. C'est Bartolomé Dias qui va permettre au Portugal de devenir la nation la plus enviée de toute l'Europe. Car c'est la première fois qu'on a réussi à longer toutes les côtes africaines. Et c'est sous le successeur d'Henri le Navigateur qui lui a donné cette première impulsion incroyable. C'est sous Jean II, qu'on a appelé le Parfait, que son royaume allait véritablement devenir ce que je pourrais appeler sans trop forcer le guide de l'humanité en cette fin du 15e siècle. Et Lisbonne, ce sera la première capitale qui va trouver véritablement la voie de la richesse. Thank you. mentalement, prenez une carte de l'Afrique et essayez de penser à la façon dont on a pu descendre petit à petit ce continent avant de se lancer d'un seul coup à travers cet immense océan Indien pour arriver dans ce pays des merveilles, ce pays des merveilles qui a été décrit seulement il y a déjà pas mal de temps, dans les années 1200 par Marco Polo. Personne, par voie de mer, n'avait pu accéder à cette zone-là. Et on vit cela un peu comme les lectures de Marco Polo, comme ses ouvrages qu'il a écrits dans sa prison génoise. À propos de Génois, quand on parle de Jean II de Portugal, eh bien, il avait trouvé maintenant cette voie vers les Indes, c'est vrai. Et on se demande pourquoi il aurait, à l'époque, risqué son argent, risqué ses ducats portugais pour un certain Christophe Colomb qui est déjà là. Qui est déjà là pour lui réclamer plusieurs vaisseaux pour gagner les Indes par l'Ouest. L'idée est déjà dans l'air. Et c'est vrai que c'est le Portugal qui va refuser à Christophe Colomb ce nouvel accès. Bon, il y avait déjà eu pas mal d'essais. On avait déjà cherché à atteindre les Antilles. Le mot Antilles vient d'Antilla, les îles légendaires qu'on savait être à l'Ouest. On avait déjà essayé de chercher le Brésil. Au Brésil, c'est un nom qui existait déjà au XIVe siècle. Tout le monde parlait du Haut Brésil qui se trouvait effectivement à l'Ouest, terre légendaire encore. Mais il n'y a aucune raison, on avait été jusqu'aux Açores. C'est loin déjà les Açores. Et les Portugais se sont lancés déjà à travers l'Atlantique et vont découvrir toutes les îles qui sont au large de l'Afrique, les îles du Cap Vert par exemple. Mais pourquoi aller vers l'Ouest quand on venait de trouver justement la bonne route pour aller vers l'Asie ? Donc il était tout à fait logique que le Portugal refuse à Christophe Colomb ce nouvel accès vers des terres inconnues. On verra plus tard pourquoi il n'y a jamais de hasard dans une découverte, et encore moins dans celle du 12 octobre 1492. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout les événements qui vont se produire. J'en parlais la dernière fois, lorsque nous allunissions avec Neil Armstrong et que nous faisions le grand voyage, ces 400 000 km, on parlait de tout ce qui était derrière la Lune, c'est-à-dire les différentes planètes que l'on est en train de découvrir, notre propre système solaire. Eh bien, en moins de 30 ans, il faut le rappeler, après la découverte de Colomb, en moins de 30 ans, il y aura plusieurs centaines, plusieurs milliers de petits bateaux qui vont partir de Palos, qui vont partir de Cadix, qui vont partir de Séville, de Lisbonne, et qui allaient découvrir plus de continents que l'humanité entière au cours de tous les siècles précédents. Ça, c'est une image incroyable de penser que la surface de la Terre va doubler en quelques années, en moins de 30 ans. Or, pour parler de cette époque-là, c'est-à-dire ce qui va se produire entre 1492 et 1522, eh bien, il n'y en a qu'un qui peut vraiment réunir tous les exemples, c'est Magellan, bien sûr, enfin l'expédition de Magellan, puisqu'il ne reviendra jamais de son premier tour du monde, de ce 6 septembre 1522, où on voit arriver dans le port de Sanlúcar de Barrameda, tout au sud de l'Espagne, on voit arriver une caravelle, ou plutôt ce qu'il en restait. Il manquait d'ailleurs deux mâts qui avaient été brisés. Ses voiles étaient complètement déchirées. On a peine à deviner sur ces voiles, ces grandes croix rouges. Ça, c'est un bon exemple. On est parti faire le tour du monde avec les grandes croix rouges de Saint-Jacques. Le fameux Saint-Jacques qui est le protecteur de toute l'Espagne. Et Santiago, c'est également le protecteur de tous les marins audacieux, des premiers conquérants. On va pouvoir prendre le monde entier au nom de Saint-Jacques. Et curieusement, ces hommes qui s'affairent sur le pont, sur le pont du bâtiment, ils sont là comme des inconnus. Ils reviennent après 3 ans d'absence, ils remontent le Guadalquivir et on se demande d'où ils viennent. C'est vrai, qu'est-ce que c'est pour une épave? D'où provient ce bateau qui n'est pas du tout attendu, car en fait on n'attend absolument plus après 3 ans ces quelques hommes de l'expédition Magellan. 5 bateaux étaient partis, un seul va revenir, il est conduit par Sébastien Elcano et il n'y a que 18 hommes à bord. Ça, c'est assez incroyable de penser qu'ils étaient partis 265. 247 vont mourir en route en 3 ans et ça n'est que 18 personnes qui vont revenir en Espagne et remonter le Guadalquivir après la plus grande aventure de tous les temps. Ces 247 disparus, eh bien, ils ont disparu en mer, c'est vrai, quelques-uns ont déserté, il y en a même qui sont morts beaucoup sous les projectiles des sauvages. On se rappelle de la mort de Magellan dans la région des Moluques. Et certains ont été débarqués sur des terres désertiques. Il y a eu des rébellions incroyables dans le sud de l'Amérique. On a même abandonné des hommes dans les régions les plus incroyables et les plus froides, juste avec quelques tonneaux de vivres. Et en cette fin d'après-midi, quand on voit la Victoria, c'est le seul, je vous le rappelle, à mouiller dans ces eaux tranquilles du port, lorsque ce bateau revient, le Victoria est le seul au rendez-vous de la réussite. Mais ce qui m'impressionne le plus par rapport à cela, c'est qu'en 3 ans d'aventure, ils en ont fait plus que personne d'autre. En fait, ils ont été absents pendant 1081 jours. Je les ai comptés, car c'est un journal de bord qui nous permet de suivre ce voyage. Un journal qui a été écrit par Pigafetta. Pigafetta, j'ai retrouvé l'autre jour sa maison. En promenant en Italie, c'est un jeune homme qui était monté à bord et qui a accompagné Magellan et qui tous les jours a écrit ce journal de façon très systématique et par bonheur il nous est parvenu. C'est un peu comme si une émission de télévision pouvait être conservée pendant 400 ans et qu'on puisse, comme nous l'avons vu la dernière fois, voir à l'unir nos premiers hommes. Eh bien, Pigafetta, c'est quelqu'un qui va se rendre compte en arrivant aux îles du Cap-Vert d'un des phénomènes qui va ébranler le XVIe siècle. Tout le monde le sait, quand vous allez en Amérique, vous avez un décollage horaire. Quand vous faites le tour de la planète en 80 jours avec Jules Verne, vous gagnez un jour. Eh bien, Pigafetta, en arrivant aux îles du Cap-Vert, dans son journal de bord, il était encore au mercredi et les gens vivaient effectivement un autre jour. Donc, il avait involontairement découvert ce que les savants vont eux-mêmes découvrir par des débats incroyables, c'est pourquoi, en faisant pour la première fois le tour du monde, on avait gagné une journée entière. C'est un tout petit détail, mais ça nous montre qu'après tout, si nous faisons aujourd'hui de grandes découvertes, celle-ci était une découverte des plus incroyables pour le XVIe siècle. De se rendre compte qu'en suivant simplement le soleil, effectivement, le soleil était celui qui était au centre de notre système. Quand on pense au nombre de savants qui sont morts sur des bûchers, simplement pour avoir prétendu que nous étions le centre du monde. Eh bien, à partir de Pigafetta, nous savons de façon définitive que c'est la planète Terre qui tourne autour du Soleil, puisque ce gain de 24 heures ne peut se comprendre qu'en comprenant le système solaire. Tous ces hommes étaient partis le 20 septembre 1519. Il y avait donc 17 mois, je vous disais, 1081 jours qui s'étaient écoulés. Et aujourd'hui, le chef, c'était Sebastián del Cano. C'était le pilote basque qui avait réussi à ramener ce dernier bateau, la Victoria. Et il va ordonner de jeter l'ancre à Sanlúcar. Et quelques minutes plus tard, Pigafetta et ses compagnons vont descendre ensemble la passerelle. Là, il faut voir un peu comment ils sont descendus. Involontairement, là, j'ai de nouveau l'image de nos astronautes descendant de leur vaisseau spatial et titubant, totalement glauque. Et c'est vrai que ce débarquement à Sanlúcar a été terrifiant, car ces hommes sont tombés à genoux, ils ont embrassé la Terre. La première idée, c'était d'envoyer un message à l'empereur, à Charles Quint. Car c'était déjà sous Charles Quint qu'ils étaient partis, celui qui était Charles Ier depuis 1516, qui deviendra Charles Quint depuis 1519. Et ils vont lui annoncer cette incroyable nouvelle, car personne n'y croyait. Enfin, c'est une aventure qui avait été lancée comme 100 autres aventures en même temps. Et la première chose à laquelle ils pensent malgré tout, c'est de manger, bien sûr. Car pendant tout ce voyage, ces gens-là sont morts de faim. Et nous en parlerons peut-être tout à l'heure. La partie la plus incroyable, c'est la traversée du Pacifique. Ils ont été plus de 100 jours sans rien voir, sans découvrir une seule terre. Et ils ont fini même par manger le cuir de la Grand-Vergue en laissant tremper 4 ou 5 jours dans l'eau afin qu'ils puissent le mâcher plus facilement. Ils mélangeaient la sciure avec les restes de biscuits. Il y avait des vers, ils faisaient la chasse aux rats et ils essayaient surtout d'attraper ces rats qui eux-mêmes avaient plus ou moins fui le bateau parce qu'il n'y avait vraiment plus rien à manger et on les payait très cher. C'est une véritable fortune. Chaque fois qu'on attrapait un rat, c'était un festin et les gens mangeaient la nuit, bien sûr, pour ne pas voir ce qu'ils buvaient, ce qu'ils mangeaient. L'eau était totalement sale et il y a vraiment des passages absolument incroyables sur le scorbut. C'est la première fois qu'on a été véritablement sujet au scorbut. Les gens n'avaient plus de gencives, enfin, ils n'arrivaient même plus à mâcher, justement. Et c'est vrai que ça a été une des aventures les plus incroyables. Et quand on comprend le nombre de morts et ces 18 survivants, c'est peut-être là où les pertes de cette espèce d'hôpital flottant ont été les plus terrifiantes. Alors, après avoir envoyé leur message, ils ont mangé. Bien sûr, pour la première fois, ils ont retrouvé du vin, ils ont retrouvé du pain, de la viande. Ça paraît évident que quand on sait aussi que pour rentrer depuis les Moluques, ils ont dû éviter pratiquement toutes les terres, car toute cette partie du monde appartient depuis 1494 au Portugal et non pas à l'Espagne, puisqu'ils sont partis sous pavillon espagnol. Ils avaient l'interdiction de s'arrêter dans les ports portugais. Ils se sont fait même passer pour des gens lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté de l'Afrique, lorsqu'ils ont passé le Cap de Bonne-Espérance pour revenir ensuite sur les îles du Cap-Vert. Ils se sont même fait passer pour des Espagnols qui rentraient d'Amérique. Parce que les Portugais n'auraient jamais accepté qu'ils aient traversé tout l'océan Indien qui leur appartenait. C'est-à-dire aucun galion, aucune caravelle espagnole n'avait le droit de traverser cette moitié du monde. Ça aussi, c'était une première. Et là, quand on lit les aventures de Magellan sous la plume de Pigafetta, on se rend compte des difficultés. Lui a eu le bonheur de rester sur le dernier bateau. Mais c'est vrai que c'est presque aussi difficile de traverser cette zone asiatique et africaine que de traverser le Pacifique. Donc on comprend qu'en arrivant à Séville, qu'en arrivant à Sanlúcar de Barrameda, la première idée, c'était de manger.
Long cours, c'est jusqu'à 20h. Radio Lac, il est 19h32.
Une fois repus, quelques heures après, nos 18 hommes d'équipage, sans autre accompagnement, décident de partir de Sanlúcar pour arriver jusqu'à Séville. Donc maintenant, ils remontent ce Guadalquivir. Regardez ce bateau, totalement détruit, une véritable épave, je vous l'ai dit. Et imaginons ces hommes qui aperçoivent après 3 ans la Giralda, la grande tour de la cathédrale de Séville, qui aperçoivent enfin la tour de l'or, cette tour d'or qui a été construite par les musulmans. Ils accostent sur un quai qui n'est pas un véritable quai, car Séville n'a jamais eu de véritable quai. C'est une sorte de berge comme cela, où arrivent tous les vaisseaux et toutes les caravelles d'Amérique, d'Afrique et d'ailleurs. Et ils descendent de la Victoria, et le dernier ordre du capitaine, c'est de faire tirer quelques coups de bombarde pour annoncer leur arrivée. Cette salve qui est exactement la même que celle du jour du départ, c'est le dernier ordre. Mais c'est impressionnant aussi de vouloir absolument annoncer cette fin du tour du monde par le même son et la même idée que le départ. Bon, ils annoncent surtout qu'ils sont de retour, c'est vrai, faire le tour du monde, c'était le but qui avait poussé Magellan. Peut-être pas tous ces hommes, bien sûr. Les héros d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux du départ. Et le lendemain, on va décharger la Victoria. Et ça, c'est peut-être l'idée la plus précieuse au sens étymologique du terme. Savoir que ce bateau va être déchargé par ces fils de porteurs sur cette berge boueuse. Ils vont ramener 26 tonnes d'épices et de produits d'Orient. Ces 26 tonnes odorantes qu'ils n'ont pas pu manger en route, ça vous l'avez compris, c'est assez difficile de croquer du poivre lorsqu'on a faim, mais ces 26 tonnes de richesses qu'ils ont ramenées des Moluques, eh bien, ça permet, par une seule cargaison, C'est un tout petit bateau, il ne faisait que 85 tonnes. Le plus gros faisait 120 tonnes. C'est un des plus petits de l'expédition. Eh bien, ceci va permettre de dédommager amplement la perte des quatre autres. Bien sûr, ceci ne permet pas de compter les 200 marins disparus, mais pour les banquiers, pour les gens qui avaient payé cette expédition, ils avaient reçu 5 fois plus d'argent qu'il n'en avait donné au départ. Ça, c'est aussi le but de l'expédition de Magellan. Oui, ce commencement de l'expédition, qui était la recherche des épices, cette façon de vouloir contourner le monde afin d'obtenir la chose la plus précieuse. C'est la première fois aussi, peut-être, que l'Espagne, qui est maintenant une nation toute nouvelle, que cette Espagne va donner des dimensions planétaire à notre globe, cette échelle terrestre nouvelle, ce monde qui maintenant est totalement bousculé. Pour mieux comprendre cette première aventure, ce premier tour du monde, je crois qu'il est bon de savoir qui était Magellan d'abord. Magellan, c'est quelqu'un qui a voyagé sous pavillon portugais et qui connaît parfaitement les côtes d'Afrique, qui connaît parfaitement l'océan Indien et qui va résider 7 ans à Malacca. Donc il connaît parfaitement aussi l'extrême de l'Asie, c'est-à-dire les Moluques, d'où venaient toutes les épices qu'on ramenait vers l'Europe, grâce au Portugal, bien sûr. Or, le début de son aventure malaise va lui permettre de rencontrer un garçon qui s'appelle Henrique, qui sera au départ son esclave, qu'il va affranchir au départ de son voyage autour du monde. Et cet Henrique, eh bien, il le prend sur son bateau au départ de Séville afin d'être sûr d'avoir fait le tour du monde. C'est-à-dire, ce qu'il espère, c'est arriver de nouveau aux Moluques, ça c'est sa véritable idée, par l'Ouest. Et c'est vrai que cet Henrique, esclave malais, sera le premier homme à faire le tour du monde. Car lorsqu'il arrivera aux Moluques, il va entendre pour la première fois sa propre langue. Après avoir fait le tour du monde, après avoir voyagé en Europe, fait le tour de l'Amérique, avoir traversé le Pacifique dans les conditions dont on parlait tout à l'heure, eh bien, il va entendre de nouveau son langage et savoir qu'effectivement la Terre est ronde. Ça a dû être un des événements les plus incroyables. Et Magellan a pleuré ce jour-là. Il a pleuré plusieurs fois, d'ailleurs, dans le voyage, même si c'était un homme extrêmement dur, extrêmement solide, car pour commander ces 265 hommes au départ, nous allons le voir maintenant, le montage de l'expédition n'a pas été aussi évident qu'il le paraît. Alors Magellan revient des Moluques en 1512. Il a été si longtemps à l'étranger, à l'extrême du monde, que tout avait véritablement changé en Europe et le Portugal avait beaucoup changé. Et comme pour Christophe Colomb, il s'est retrouvé devant Jean II du Portugal, eh bien Magellan va se retrouver devant Manuel. Et Manuel va lui refuser exactement de la même manière que Jean II va le faire, ou l'avait fait, pardon, avec Christophe Colomb quelques années auparavant. On peut dire que la même scène historique va se renouveler exactement au même endroit, dans le même palais. Car Bon, la petite différence, c'est que Colomb était quelqu'un qui savait parler. C'était un véritable ambassadeur. Magellan, c'est un homme qui est petit, qui est trapu, assez rusto. Il a une énorme barbe noire. Quand on voit ces quelques portraits qui nous sont parvenus, on se rend compte que ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup de facilité dans le contact humain et surtout pas avec un grand dirigeant comme ce roi du Portugal. Donc, il sera très rapidement congédié avec un certain dédain, le même dédain que Jean II a eu pour Christophe Colomb. Et malgré tout, il va faire comme les Génois, il va conserver ses idées, il va même rester assez longtemps à Lisbonne, c'est-à-dire qu'il va d'abord vouloir compléter son expérience. Et sa grande force, c'est d'avoir étudié les cartes. Essayez de penser à la notion du monde à la fin du XVe siècle. C'est vrai que tout à coup, on va voir, à partir des Vénitiens surtout, se dessiner petit à petit le monde. On pourrait même dire deviner ce qu'était le monde. Et il reste encore un instant dans cette région, simplement pour pouvoir espionner les fameux portulans qui sont en général cachés dans une salle interdite et qui sont placardés contre les parois. À l'époque, on en faisait des tableaux gigantesques et seuls les grands marins avaient le droit de les consulter pour autant qu'ils fassent partie de la cour et qu'ils aient le secret du roi. Donc, on avait un côté extrêmement fermé pour protéger cette valeur incroyable qui était les portulans qui permettaient de connaître chaque nouvelle destination, chaque petit point blanc sur la carte qui était vaguement dessiné par ces cartographes justement. Alors il connaît d'abord un certain Rui Faleiro qui lui a inventé pratiquement le système des méridiens, cette idée des méridiens qui englobe la sphère terrestre. Ça va lui être très utile pour comprendre également le déroulement de son voyage. Et puis il a les mêmes ambitions que cet astronome royal. C'est-à-dire qu'il a une haine absolue contre son propre roi et on ne le savait pas à l'époque, mais c'est vrai que cet astronome royal va, on peut le dire, vendre certains secrets à Magellan. Et si tous avaient échoué avant lui, il est absolument persuadé, à cause de cet astronome, à cause de ses cartes, il est absolument persuadé qu'il existe un passage dans l'Amérique du Sud. C'est-à-dire qu'il croit un peu que, d'après les descriptions qu'on a de l'époque, il croit que, en fait, à partir du globe de Beheim, qui était fait au début du XVIe siècle, eh bien, il croit que ce passage se trouve à peu près à la hauteur du Rio de Plata. Donc au 40e sud, or il va passer pratiquement jusqu'au 50e pour obtenir un passage entre la Terre de Feu et le continent. Alors, cette idée va peut-être lui permettre d'échafauder des théories beaucoup plus incroyables lorsqu'il s'adressera au roi d'Espagne. Et on sait qu'il a aussi vu un globe qui a été dessiné en 1515. Là, en quelques mois, tout à coup, les Allemands, les Vénitiens, les Espagnols, les Portugais surtout, vont petit à petit inventer des passages qui n'existent pas forcément. C'est vrai qu'en remontant plusieurs fois le Rio de la Plata, on était persuadé que c'était un passage à travers le continent, un peu comme le détroit de Gibraltar. Donc ce sont de fausses idées qui vont en fait permettre à Magellan de se lancer dans l'aventure. Thank you. Après avoir étudié tous les portulans de Lisbonne, le 20 octobre 1517, il va partir pour Séville. Après une année, il va se marier et il va rester à la Casa de Contratación. C'est une maison très importante qui a été fondée par Isabelle la Catholique, qui était un peu le coffre-fort justement, l'endroit où l'on jugeait toutes choses, où l'on devait envoyer toutes choses venant des nouvelles conquêtes et des nouvelles découvertes. C'est-à-dire l'Amérique a été mise en boîte dans cette maison de Contratación à Séville même. Et là, il va être aidé par Juan de Aranda, qui est un membre de cette maison, qui va l'inviter et qui va en somme créer une sorte de trilogie financière qui va petit à petit l'aider dans son projet, car il faut être appuyé avant d'arriver jusqu'à la cour. Et il l'obtiendra grâce à quelqu'un qui fait partie du Grand Conseil, Fonseca. Il va obtenir la dernière introduction, il va l'appuyer, c'est assez rare, parce qu'en fait c'est lui qui avait combattu le mieux Christophe Colomb avant son départ, et le roi va signer. Après avoir été ainsi appuyé par différents consultants, il va signer, car chaque fois il faut effectivement obtenir l'autorisation suprême du roi pour que non seulement les finances arrivent par des personnes qui sont des banquiers qui désirent se lancer dans cette expédition pour obtenir des bénéfices, mais surtout pour obtenir des titres et des droits, car personne ne peut partir de Séville sans être complètement contrôlé. On le sait par exemple quand on a découvert le Pacifique en 1513, quand Balboa, ou plutôt son chien, a posé pour la première fois sa patte dans la mer du Sud, eh bien il y avait eu un problème avec Pissarro. On a prétendu ensuite que Balboa avait trahi, eh bien, il va être décapité simplement par dénonciation interposée, et tout ceci sera jugé en Espagne et on le décapitera en Amérique. Donc on voit que les allers-retours, même avec Caravelle, le système de communication était extrêmement sévère et que les lois espagnoles arrivaient maintenant à couvrir la moitié du monde. Car je vous le rappelle, en 1494, on a véritablement découpé le globe en deux. C'est très important pour comprendre aussi le voyage de Magellan. Magellan avait travaillé pour le Portugal sur la partie portugaise, c'est-à-dire l'Afrique et l'Asie. Et à l'époque, en 1494, juste après la découverte de l'Amérique, c'est ce qui paraît encore plus incroyable, 2 ans après la découverte de l'Amérique, Alexandre VI Borgia, qui est un pape d'origine espagnole, va, pour les rois catholiques, espagnols en particulier, découper ce monde en disant, écoutez, tout ce qui se trouve à 100 lieues des îles du Cap Vert, c'est-à-dire en plein océan Atlantique, tout ce qui est à droite appartient désormais au Portugal et tout ce qui est à gauche appartient désormais à l'Espagne. Donc on venait de partager la planète entre deux nations. Or, les Portugais n'étaient pas très contents de ce partage, ils estimaient que 100 lieues, ça n'était pas assez. On aura une correction de ce traité qui va être poussée jusqu'à 300 lieues des îles du Cap Vert, et en les repoussant à 300 lieues, eh bien en 1496, c'est-à-dire 4 ans avant qu'on le découvre, le Brésil est déjà portugais. Si vous suivez la ligne, eh bien elle longe effectivement le nord du Canada, elle descend tout droit sur l'Amérique du Sud, elle donne cette immense bulle du Brésil qui déborde sur l'océan Atlantique, elle donne déjà cet immense morceau au Portugal, ce qui fait que tout le reste de l'Amérique est devenu espagnol, mais de l'autre côté du monde, les Philippines, justement, sont déjà espagnoles avant d'être découvertes. Donc on a partagé l'orange en deux à partir de 1496. Et ceci est important, je le disais, pour Magellan, car effectivement, il va faire la moitié du voyage sous pavillon espagnol dans son domaine, mais il sait pertinemment qu'il devra rentrer comme un pirate sur toute la partie portugaise pour achever le premier tour du monde. Le voyage lui-même de Magellan est absolument fascinant. Les étapes sont extrêmement difficiles. Le plus difficile, ce sera d'abord le fait de s'être trompé de route. Il va longer d'abord les côtes d'Afrique jusqu'à la Sierra Leone et ensuite il va aller sur le Brésil. Il arrivera assez rapidement à Rio, qui est encore neutre. Je veux dire par là qu'effectivement, Rio n'a pas été encore investi par les marins portugais. Or, c'est vrai que les Portugais n'ont jamais investi l'intérieur des terres et se sont contentés uniquement de comptoirs dans le monde, ce qui n'est pas le cas des Espagnols, qui ont déjà envahi la moitié de leur partie continentale avec le Mexique, par exemple. Et à partir de Rio, tout va se gâter, car en descendant plus bas, à la hauteur du 40e, en cherchant pendant 15 jours ce fameux passage à l'intérieur de Rio de Plata, ils vont se retrouver en plein hiver austral. Et ça, ce sera une période extrêmement difficile. Les marins vont l'abandonner, les capitaines vont le trahir, il y aura des drames incroyables, il devra débarquer 60 hommes sur terre avec des vivres, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est vrai que ces gens vont mourir de faim, comme Drake d'ailleurs va le faire plus tard avec certains de ces hommes qui eux vont refuser de débarquer, se rappelant très bien de cet exemple de Magellan, et il faudra assassiner véritablement certains de ces hommes pour qu'ils acceptent, les autres en tout cas, de débarquer. Et finalement, il arrivera au sud du continent avec beaucoup de difficultés. Il devra attendre pratiquement tout un hiver avant de découvrir son passage, son détroit de Magellan. Et il va voir la Terre de Feu, bien sûr. Il va découvrir les premiers Patagons, ces Patagons aux grands pieds qui étaient des géants. Enfin, ça, c'est tout un côté mythique qui nous rappelle l'existence de ces premiers indigènes d'Argentine. Et finalement, après avoir passé le cap, ils vont se retrouver en plein Pacifique et là, il n'y a plus de retour possible. Il aura déjà perdu certains bateaux, ils ne seront plus que quelques hommes à traverser ce Pacifique et ils vont se retrouver aux Philippines après 103 jours de traversée, si ma mémoire est bonne. Et c'est là aux Philippines qu'ils vont se rendre compte, après quelques encablés, qu'ils ont fait le tour du monde grâce à Enrique, je vous le disais, qui parlait la même langue que les indigènes locaux. Alors, tout va se gâter à partir de la mort de Magellan. C'est une longue histoire, elle est difficile à raconter en soi, mais c'est simplement pour défendre un petit roi local qu'il va débarquer avec une soixantaine d'hommes et il va être pris sur la berge. Leurs armes ne les aident pas à distance, les indigènes sont trop loin et ces indigènes se rendant compte que les Portugais, enfin ils sont toutes sortes de nationalités, car il y a des Espagnols, il y a des Noirs, il y a des Basques, il y a des Allemands aussi sur ce bateau, il y a des Anglais, des Cypriotes, des gens de Corfou, c'est vous dire à quel point c'était un ramassis de desesperados qui vont faire le premier tour du monde. Eh bien, ils m'ont non seulement oublié Magellan sur la plage, mais les indigènes, croyant que leurs armes ne fonctionnent plus, ils vont les attaquer et Magellan va mourir de manière extrêmement héroïque. Et à partir de là, ce sera un peu la débandade. Certains prétendent qu'il vaut mieux revenir en arrière. D'ailleurs, un bateau va tenter de revenir jusqu'à Panama. Il s'est perdu corps et bien, puisqu'on sait que la Victoria sera le seul navire à rentrer à bon port, en évitant justement tous ces comptoirs portugais, avec l'interdiction de débarquer. Et ils l'ont même eu lorsqu'ils ont terminé le tour de l'Afrique, quand ils sont arrivés dans les îles portugaises au Cap-Vert. Eh bien là, il y a certaines personnes qui ont débarqué, ils ne sont jamais revenus non plus. Ils sont restés, ils ont trouvé que l'endroit était sympathique et ils ne sont pas revenus. Donc ils sont trouvés finalement à 18 seulement pour terminer la dernière petite traversée jusqu'en Europe. Ils n'ont même pas eu le droit de débarquer pour prendre de l'eau. Ils ont dû simplement la pomper depuis le bateau dans une rivière d'eau potable. Et finalement, vous vous rappelez de la fin de l'aventure lorsqu'ils sont remontés ce Guadalquivir. Le seul qui tirera un peu de gloire de ce premier Tour du Monde, c'est Sébastien Delcano, qui avait pourtant trahi Magellan, mais qui, par son courage, par sa ténacité, deviendra le dernier capitaine de cette petite Victoria. Et la morale de l'histoire, en fait, est intéressante, car à partir de l'arrivée à Séville, tout s'oublie. On a gagné de l'argent, les financiers sont contents, le roi a découvert que le monde était rond, c'est vrai, que la planète était ronde, mais ayant l'interdiction de retourner sur des terres portugaises, le propre de Magellan, c'était simplement de prouver que c'était vrai, qu'on pouvait arriver aux Moluques par l'ouest, et qu'effectivement il y avait un passage vers le sud. Mais ce qui est incroyable, c'est un peu comme pour notre Lune, il va y avoir une cassure après la découverte de Magellan, puisque si en 1522 il revient par personne interposée jusqu'en Espagne, eh bien, il faudra attendre Francis Drake pour que quelqu'un d'autre refasse le tour de l'Amérique par le sud. Et Francis Drake va le faire uniquement pour aller piller Lima. Lima qui pourtant est fondée depuis 1536, au moment où Francisco Pizarro va la fonder après avoir fait tomber l'Empire Inca. 1536, mort de Francisco Pizarro en 1541. Et un peu plus tard, Francis Drake vient par le sud parce que les Espagnols avaient oublié complètement cette route et n'utilisaient que celle de Panama, en déchargeant les marchandises d'un côté et en les rechargeant de l'autre. En construisant des bateaux, en prenant le bois et certaines choses du côté atlantique et en les rebâtissant du côté pacifique. C'était beaucoup plus rapide d'envahir l'Amérique du Sud, de contrôler Lima et cette vice-royauté du Sud qui va jusqu'à la Bolivie et qui va s'augmenter petit à petit, de la contrôler par le détroit cette partie étroite de Panama, que de faire le tour par cet incroyable détroit de Magellan qui lui était beaucoup plus difficile d'accès. Alors ça, c'est un peu l'épilogue de l'histoire, parce que savoir qu'il faudra attendre 75 ans, enfin 50 ans en tout cas, avant que quelqu'un reprenne l'idée du passage de l'Amérique, nous prouve bien qu'au fond, si le Pacifique a été repris par la suite, c'est uniquement par des expéditions qui partaient plutôt d'Acapulco ou du nord, des conquêtes espagnoles, vers les Philippines. Mais en fait, la voie royale du tour du monde n'a été faite qu'une seule fois, véritablement par Magellan, pour ce 16e siècle.